compagnons de l'Orbe raconter. Épisode 16.
Alors narrateur, t'as finalement décidé de reprendre le tome 1 raconté ?
Tout à fait, mon petit bébé, avec un nouveau chapitre.
Bah c'est pas trop tôt. Dans le précédent, nos aventuriers étaient parvenus à dénouer l'énigme des fours étouffés de Fulmar Briskran. Ils étaient d'ailleurs repartis avec un petit coffre offert par ce dernier et sa vigoureuse compagne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ?
Tu verras bien. Allez, on attaque.
Oh ! Bon, il s'appelle comment ce chapitre ?
Le sorcier canard.
Tu parles d'un titre.
Allez, on ouvre, on est assez loin maintenant. T'es un petit nain patient et t'attendras la tombée de la nuit, comme l'a demandé Fulmar. Baclore continua à bougonner. Outre une bourse contenant 100 pièces d'or, le nain forgeron avait offert au groupe un coffret de bois incrusté de décors en argent représentant les armoiries de Fulmar. Les quatre côtés étaient ornés d'enluminures compliquées ponctuées à intervalles réguliers de runes et de symboles magiques. « Allez, bonne route !» leur avaient souhaité Fulmar et Arda sans se lâcher la main. « Et attendez bien la tombée de la nuit avant d'ouvrir le petit coffre !» La journée promettait donc d'être longue, car les jumeaux, aussi têtus qu'impatients, revenaient sans cesse à la charge, trépignant d'envie d'en découvrir le précieux contenu. Le capitaine Drakkor avait repris son entraînement à la marche à pied aux côtés de Rohor. À chaque halte, pendant que le reste du groupe se reposait, les deux comparses s'adonnaient à des exercices d'escrime, faisant s'entrechoquer dans un vacarme retentissant les épées dépourvues de tranchants que leur avait tout spécialement forgé Fulmar. Au bout du chemin encaissé, qui grimpait en pente douce entre les chênes centenaires dont les frondaisons descendaient jusqu'au sol, le soleil orangé d'une douce soirée d'été dessinait une arche lumineuse pareille à un portail voûté ouvert sur un monde paradisiaque. « Si l'on en croit la carte, pronostiqua le capitaine Drakkor, nous devrions arriver sur un plateau herbeux s'étendant sur une vingtaine de kilomètres. Autant installer un campement pour la nuit juste en haut de cette côte. » « Bonne idée. D'ailleurs, on n'entend plus du tout les deux jumeaux. Alors, soit ils ont filé avec la caisse, soit ils se sont encore endormis dans la charrette. » Lougar semble avoir une nette propension à roupiller au milieu des jambons, s'esclaffa Rohor, que la perspective d'un bon repas rendait jovial. « J'aime beaucoup ces grandes étendues dégagées, s'extasia Éoliel en atteignant le sommet du chemin. On y trouve tout un tas de plantes qui ne poussent que dans ce type d'endroit. » Les trois infatigables marcheurs, qui précédaient de peu le chariot bâché, où quatre dormeurs ronflaient du sommeil du juste, restèrent un moment en extase devant le paysage qui s'offrait à eux. Passé la lisière de la forêt, qui semblait avoir été tranchée nette sur des dizaines de kilomètres de part et d'autre du chemin, s'étendait à perte de vue une gigantesque prairie. Les derniers rayons du soleil, qui s'attardaient entre les sommets déchiquetés des lointaines montagnes des fées, s'étiraient jusqu'à toucher l'herbe ondoyant doucement dans la brise du soir. Dans ces quelques halos dorés s'égayaient encore des oiseaux, festoyant dans un joyeux tintamarre. Quelques rochers monolithiques, coiffés d'arbustes décharnés, parsemaient cette immensité paisible, pareille à des géants immortels, sentinelles de pierre oubliées là depuis le commencement des âges. Alors que le capitaine montait déjà sa tente pour les filles, Lougar s'extirpa de la charrette, bâilla à gorge déployée en s'étirant comme un chat heureux, puis sembla d'un coup se rappeler quelque chose. « Je vais chercher du bois pour le feu » proclama-t-il avec un air décidé, en bousculant sans ménagement les jumeaux pour fouiller dans son paquetage. Après en avoir extrait une hache et une scie, il partit en sifflotant, sous le regard incrédule du reste du groupe. « Ça alors, c'est la meilleure, qu'est-ce qu'il lui prend ?»« Ouais, c'est bizarre, d'habitude, après la sieste, il essaye toujours de faire un petit somme, surtout au moment de préparer le campement. » Les jumeaux, après avoir bondi de la charrette, déposèrent près de l'emplacement du foyer préparé par Rohor le précieux coffret offert par Fulma et Arda. Ils s'assirent silencieusement en tailleur, les bras croisés, face aux fruits de leur convoitise. Il fut dès lors impossible de les déloger de cette position, ni même d'en tirer un seul mot. Une bonne heure après son départ, Lougar réapparut, visiblement très fier de lui. Traînant derrière lui une unique branche morte, qu'il avait visiblement sectionnée à la hache, il tituba jusque devant ses équipiers médusés et brandit son trophée dérisoire. Bégayant un début de phrase tout à fait incompréhensible, un sourire parfaitement niais sur les lèvres, il la conclut prématurément d'un « Ta-da !» avant de s'effondrer, les bras en croix, et de se mettre à ronfler comme un goré. Les jumeaux, qui scandalisés s'étaient levés comme un seul homme, se mirent à l'insulter copieusement. « Oh, saboter un moment pareil, si c'est pas honteux! Rince-goulot, poivreau, tréteau de buvette, ivrogne, boisson soif, éponge, cornichon, troglodyte, pisse-menu, traîne-savate!
Ça suffit, Wout, s'interposa Éoliel furibarde, alors que le troll et le capitaine se tordaient de rire. Éoliel, pince-lui le nez! L'elfe s'exécuta du bout des doigts en grimaçant, pendant que son ami, après avoir prélevé de son sac une petite fiole au liquide violet, en versait une goutte au fond du gosier du comateux. Les deux filles se relevèrent prestement et s'écartèrent juste à temps. Le nécromant se retrouva debout en une fraction de seconde, les yeux exorbités, il regarda devant lui sans comprendre, puis, se tenant les tripes, projeta une formidable gerbe de vomi fluorescent. La poussée fut telle qu'il s'en retrouva assis par terre. Après quelques minutes, il se frotta les yeux, adressa à ses compagnons éberlués un air interrogateur, puis se gratta le sommet du crâne.
« La vache, vous avez vu les cigognes? Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû m'endormir. J'ai un de ces mal de casse, dis donc. »«
Oh, le coffre !» dit-il en désignant le cadeau. « Il est assis là, sur ses petites papattes. Il a l'air de s'ennuyer, on l'ouvre ?» Avant que quiconque n'ait eu le temps de bouger, il avait déjà soulevé le couvercle. De l'intérieur du coffre s'éleva un rayon lumineux, constellé d'une myriade de minuscules étoiles dorées. Au centre de ce halo féerique flottait un parchemin tournoyant lentement sur lui-même. Les sept compagnons prirent le temps d'admirer le phénomène magique, hésitant à rompre la féerie de l'instant. Ce fut finalement Wally qui, d'une main tremblante, s'empara délicatement du message.
Très chers amis, comme vous vous en doutez sûrement, mon fidèle Fulmar est, de par sa nature, peu enclin aux longs discours et aux effusions tapageuses. C'est au fond un être sensible et généreux, droit et honnête, courageux et sincère. Vous avez su, grâce à votre esprit d'équipe hors du commun et à votre loyauté, résoudre un problème qui ruinait son bonheur. Sachez qu'il vous est infiniment reconnaissant et que vous serez à tout jamais ses amis. Je tenais pour ma part à remercier du fond de mon âme Éoliel, que dans mon cœur je chéris comme ma fille. Par ta sensibilité, ta douceur, ton aptitude à comprendre les autres, en faisant fi du passé, tu as sorti notre chère Ciri de l'enfer dans lequel elle sombrait chaque jour un peu plus. Carline, Lisa et moi avons pleuré ton départ. Vous trouverez dans ce coffre quelques cadeaux bien mérités. Fulmar se joint à moi pour vous souhaiter bonne route. Revenez-nous vite. PS, merci à toi Wally d'avoir transmis pour nous cette lettre avec tant d'émotion, car je suis sûr que c'est toi qui t'es acquitté de cette tâche. Très cordialement, Erda et Fulmar, Brice Crane. Quand Wally, quelque peu ébranlé, eut placé le parchemin soigneusement roulé dans son sac, elle prit gentiment dans ses bras Éoliel en larmes, submergée d'émotion. Stirlord, qui avait pris la fiche placée au-dessus du coffre, en énuméra la liste en les distribuant. « Pour vous tous, 1400 pièces d'or, soit 200 chacun. Pour le capitaine Drakkor, une superbe carte de la région d'Arkerok, ainsi qu'un précieux recueil de notes sur la façon de vaincre les démons, créatures infernales et pirates interplans. » Pour Rohor, un enchantement runique à faire installer par Stirlord, qui permettra à ses épées courtes de devenir définitivement incassables et d'enchasser dans chacune d'entre elles 3 pierres magiques. Bague magique pour les filles, plus 600 dégâts par le poison pour Wally, plus 600 dextérité pour Éoliel. Pour Lugar, bandeau de cuir à porter au front, orné de motifs d'argent morbide, ajoutant plus 8 en discrétion, plus 3 en esquive et plus 6 en génération de mana. Pour Baclor, des bracelets de cuir, plus 3 en ruse, plus 3 en résistance au froid. Et pour moi, un enchantement runique qui me fera gagner des niveaux en forge et m'apprendra à créer des lames, ajoutant plus 4 en dégâts par le feu et récupération d'un point de vie par coup. Ça, c'est la classe. De la part des gnomes pour Éoliel, il y a aussi l'amulette d'Astraria qui lui permettra de retrouver la sortie de n'importe quel labyrinthe en suivant les oscillations. Bah dis donc, il s'est pas foutu de nous, le vieux Fulmar, commenta Baclor en s'extasiant devant les bracelets de cuir que Wally terminait de lui nouer au poignet. « Je me demande si mon bandeau va m'aider à esquiver la vaisselle, » plaisanta Lugar. « Rêve, je t'ai à l'œil. »« Va aller me mettre au calme pour m'imprégner de mes enchantements runiques, » décréta Stirlord en se levant. « Rohor, donne-moi tes épées courtes, je vais m'en occuper en même temps. » Le troll tendit ses lames, poignées en avant, mais quand le nain les eut saisies, il bascula et il s'en fallut de peu pour qu'il ne se retrouve à genoux. « Punaise, mais c'est pas possible, elle pèse combien ?»« Pas étonnant que tu sois bâti comme un buff, » commanda Baclor. « Dis donc, Stir, t'avais pas un enchantement pour alléger les armes ?» « Si, mais j'ai pas encore le niveau de forge nécessaire. » Pendant que Stirlord vaquait à ses occupations, Rohor alluma le feu avec Wally et pour une fois prépara le dîner en compagnie de l'elfe plongé dans la mélancolie. Il fut impossible d'arracher le capitaine Drakkor à la lecture des cartes et du carnet décrivant les abominations peuplant la région d'Arkerok. Loin de le dissuader d'aller risquer sa vie dans ces régions hostiles, les notes de Fulmar exacerbaient en lui l'envie d'en découdre. Pour une fois, ce fut donc Rohor qui établit les tours de garde pour la nuit. une heure pour chacun, en commençant par les filles. Pendant que la druide faisait la sentinelle, Éoliel, laissant passer son joli visage entre les pans de toile, lui tint compagnie. Les deux jeunes femmes chuchotèrent longuement, jusqu'à ce que le changement de quart ne permette à Wally d'aller se pelotonner dans la tente. Elle y sombra dans un sommeil de plomb, abandonnant l'elfe, qui mit un bon quart d'heure à se rendre compte qu'elle parlait toute seule. Allongée comme à l'accoutumée dans la charrette, Roar s'endormit instantanément, bercé par le ronflement de la petite lampe qu'utilisait le capitaine pour lire ses précieux documents. Baclor et Lougar s'endormirent à l'étage au-dessus, pendant que Styrlord, ultra concentré sur ses parchemins, marmonnait des incantations nécessaires aux enchantements. Quand les trois premières heures de la nuit se furent écoulées, le nain qui venait d'en finir avec ses améliorations d'armes observa avec curiosité Rantal qui mâchouillait consciencieusement le nœud de sa longe. Le cheval tira au renard, activité pour laquelle il était devenu maître, et se libéra donc sans la moindre difficulté. Apercevant Styrlord qui le regardait d'un air amusé, il lui dédia un clin d'œil malicieux, puis partit à pas feutrés se planter devant la tente des filles. En habitué des cordelettes et autres entraves, il ne lui fallut pas longtemps, allongé sur le ventre, pour venir à bout du lien maintenant fermé les pans de toile. Après un regard complice au nain, qui avait pris l'habitude de lui tenir compagnie durant les longues heures de marche, il se mit à ramper sur le ventre centimètre par centimètre et parvint à se glisser entre les deux filles. Cherchant son sommeil, le canasson commença par jouer avec sa langue, s'amusant du bruit insolite que produisaient ses babines humides. Cette cacophonie nocturne, digne des pires cloutonneries labiales, éveilla Éoliel, qui tourné vers le pan de toile, eut la flemme de bouger et se contenta de ronchonner.
« Hé, Wally, qu'est-ce que tu fous? T'es dégueu, tu dors ?»
En l'absence de réponse, l'elfe se rendormit, bientôt suivi par Rantal, qui gagna à son tour un monde onirique, peuplé de grosses femmes en blouse, projetant avec frénésie des plaines pelletées de nains dans les entrailles rougeoyantes de pommes géantes, vomissant des torrents de bière fluorescente. Vers le milieu de la nuit, Éoliel, à nouveau à moitié éveillé, se remit à râler.
« Wally, tu ronfles à fond, espèce de patate ! Hé, psst !»
En désespoir de cause, elle balança un bon coup de coude vers l'arrière. Rantal cessa un moment de ronfler, soupira bruyamment, puis se détendit et relâcha totalement ses muscles. Cette manœuvre involontaire eut pour effet de laisser échapper une série d'émanations gastriques fort bruyantes et sans équivoque.
« Ah, oh, Wally, tu pues !»
protesta Éoliel indigné, en enfouissant sa tête le plus loin possible sous ses couvertures.
« Mais tu prends toute la place ! Pousse-toi, grosse baleine !»
Lasse de pousser et de pester, elle finit par sombrer dans un sommeil agité. La pluie fine qui s'était mise à tomber un peu avant l'aube détrempait le sol de la plaine. Baclord, qui assurait le dernier tour de garde, s'était juché sur une vieille souche face au feu qu'il venait de recharger généreusement. Accroupi et emmitouflé dans une cape de pluie trop grande pour lui, il réalisa soudain qu'ainsi perché, il devait ressembler à un gros oiseau moche. Amusé par cette image, il tendit une babine et recueillit les gouttes d'eau qui ruisselaient de sa capuche. Étendant les bras pour faire comme s'il déployait ses ailes, il bascula la tête en arrière et émit de toutes ses forces une interminable série de cocoricots éraillés. Il faut croire que les hurlements insupportables étaient fort bien imités, car une lourde botte coquée manqua de peu la tête du nain, alors que de la charrette s'élevaient des grognements de protestation. Le dernier chant de ce coq s'acheva dans un gargouillis étranglé lorsqu'une main énorme venue de derrière attrapa Baclor par le cou et le souleva jusqu'à ce qu'il se retrouve face à des babines retroussées exhibant des redoutables crocs d'un troll vraiment pas content.
D'habitude, j'aime pas bien le matin, mais là, ça s'annonce plutôt bien vu que je vais m'embrocher une bonne grosse volaille dodue pour mon petit-déj.
Toute cette agitation avait réveillé en sursaut les filles qui se rendirent compte en grelottant qu'elles étaient gelées jusqu'aux os. Leur couverture, qui s'était mystérieusement volatilisée pendant la nuit, couvrait à présent un cheval qui en mâchonnait les extrémités en roupillant, tranquillement allongé sur le dos les quatre fers en l'air. Quand l'imposant squatteur fut sans ménagement prié de quitter les lieux, il dut se rendre à l'évidence. Visiblement, sans qu'il puisse comprendre pourquoi, les mâles du groupe se foutaient ouvertement de lui et se tordaient de rire en le montrant du doigt. Vexé, le fier étalon leur tourna le dos et partit bouder en broutant de grosses touffes d'herbe qu'il arrachait rageusement en retroussant ses babines qu'Éoliel s'était appliqué à barbouiller de rouge sans le réveiller. Il avait pourtant fière allure, avec ses longs cils brossés de noir, ses paupières colorées bleu turquoise et le devant de sa crinière retenu par une extravagante barrette surmontée d'une pâquerette de la taille d'une main. La bonne humeur que cet intermède artistique avait communiqué au groupe ne tarda pas à se flétrir lorsque Wally approcha sa louche fumante de la gamelle de Baclor.
« Oh non, mais c'est pas parce que tu roupies avec les chevaux qu'il faut nous faire manger comme eux, hein !»
Non, là, faut avouer, constata Rohor en soulevant le casque qui lui servait de bol par la cuillère plantée dans son contenu pâteux.
Remarquez, pour stopper une charge de cavalerie, peut-être. Ah, ça va, Lougar, c'est que des bonnes choses dedans. Et Oliel, comment une fille comme toi qui prépare si brillamment les potions, les élixirs et les fives peut cuisiner aussi mal?
C'est vrai que c'est pas trop goûtu, conclut le troll en se levant.
J'ai repéré un gros nid en haut d'un peuplier hier. Je vais aller récupérer les œufs. On les mangera, ce sera toujours meilleur. Allez, viens, Éoliel. Toi qui grimpes bien aux arbres, tu les attrapes, tu les mets dans le panier et tu les descends au bout de la corde. Ça devrait aller tout seul.
Quoi? C'est hors de question. Les œufs, c'est des bébés oiseaux, je te signale. La mère va les chercher partout, c'est trop cruel. Je refuse d'être complice de cet assassinat.
Ouais, et nous, on refuse de manger une fois de plus cette infâme bouillie d'avoine à constiper un ogre. Rohr a raison. Et puis, on mange bien du jambon.
Lougar bâilla et s'étira de tout son.
Si Éoliel veut pas y aller, on peut toujours lancer un nain là-haut, ça fera pareil. Je refuse d'être lancé sans la présence d'un arbitre qui porte une moustache, un bermuda à carreaux et des chaussettes jusqu'au genou.
Non, ça devient n'importe quoi, décréta Rohr en fouillant dans la charrette. Suivez-moi, c'est l'arbre là-bas. Je vais attraper le nid avec ce grappin. Mettez-vous en dessous, comme ça, si ça tombe, vous les attraperez au vol. Les jumeaux suivirent le troll pendant que le capitaine mangeait, trop concentré sur ses lectures pour se rendre compte de ce qu'il ingurgitait. Lougar, quant à lui, profitant de ses nouvelles capacités à esquiver, partit tirer sa flemme à l'abri dans la charrette à lucette. Après avoir fait tourner le grappin en d'ample moulinet, Rohor, tout fier, parvint à accrocher une branche juste derrière le nid. Il tendit la corde et pesa de tout son poids sur le frêle tronc de peuplier qui, comme son nom l'indique, plia. Tirant sur ses bras comme s'il voulait monter à la corde, le troll parvint à amener l'objet de sa convoitise à quelques mètres à peine du sol. Hélas, la pluie qui tombait sans discontinuer détrempait l'écorce peu adhérente. Le métal glissa sur le bois, ripa, puis arrachant le nid à sa branche, suivit l'exacte trajectoire que lui imprimait la corde tendue à ce rang. L'assemblage de branches et de plumes engluées de fientes d'oiseaux, noyant une dizaine de pourris, vint s'écraser sur la tête du troll éberlué, le coiffant d'un chapeau grotesque. Une odeur immonde se répandit aussitôt, faisant détaler les nains qui, pris d'un rire incoercible, se tenaient les côtes et trébuchaient à chaque pas.
C'est bien fait pour toi, glapit Éoliel en se pinçant le nez, lorsque le troll piteux regagna le campement quelques instants plus tard.
Ouais, c'est vraiment pas drôle, ça pue un peu, je crois.
Un peu? C'est une infection, tu veux dire, va te laver!
Le brusque coup de vent qui venait d'éloigner les derniers nuages avait au passage égoutté les arbres sur le sol sablonneux. Quand la petite troupe se remit en route, un soleil radieux miroitait dans les petites flaques d'eau où Rohor essayait en vain de se débarrasser de l'odeur méphitique dont il était imprégné. Il fallut une bonne matinée à la petite troupe pour traverser le plateau des sentinelles.
On se traîne, constata Wally en observant la progression sur la carte. On a fait à peine 20 km en 5 heures.
C'est la faute de l'elfe, on l'a perdu 3 fois, sans compter tous les détours qu'il a fallu faire pour aller ramasser des plantes bizarres au pied des gros rochers.
Arcatella.
Quoi?
C'est le nom des plantes qu'elle a ramassées. C'est pas étonnant qu'elle ait voulu les prendre, elles ne poussent qu'au pied des sentinelles. D'après elle, et vu l'énergie phénoménale que j'ai ressentie à l'approche de ces rochers, ces plantes doivent avoir des vertus peu banales.
Ça m'a secoué aussi, confirma Lougar. J'en ai prélevé quelques fragments et du sable, à tout hasard.
Et Oliel dit qu'elle pourra utiliser séparément les feuilles, les baies, les tiges et les racines de ces drôles de plantes.
Stirlord, qui était parti en éclaireur à l'orée de la sombre forêt où s'enfonçait un unique chemin, en revint flanqué de Rantal, qu'il ne quittait plus depuis que le nain l'avait consciencieusement débarbouillé.
Il y a un genre de petit étang pas loin, mais c'est boueux et plein de moustiques. On ferait mieux de s'arrêter ici pour casser la croûte.
Bonne idée, approuva le capitaine, après une caresse affectueuse au museau de son cheval, qui explorait sans la moindre honte les larges poches de son sac à dos pour en piller l'éventuel contenu.
Autant prendre un peu de repos ici, si on en croit votre carte, observa-t-il en connaisseur, il nous faudra au moins une journée de marche pour arriver au lac. Et si on trouve pas l'embarcation capable d'emporter les chevaux, il en faudra 4 de plus pour contourner par l'est.
Sur les cartes que m'a donné Fulmar, on voit aussi le lac et cette grande forêt autour. Mais il a noté que c'était le territoire des orques.
Ah, et on peut pas contourner par l'ouest alors?
Ah, en absolu, on pourrait. Ce côté qui longe la montagne est peuplé de quelques tribus d'elfes sylvains. Mais ça nous prendrait... au moins 3 semaines de plus.
Ah, votre carte est beaucoup plus détaillée et complète que la nôtre.
Je vois ça. Ce qui est surtout curieux, c'est que le chemin qui est tracé sur la vôtre s'arrête 50 km à peu près au nord du lac, sur ce qui semble être une colline fortifiée.
Ah, elle figure sur les deux cartes. Fulmar a écrit « Tertre du vieux Kipédias le râleur ».
Ah bah ça doit être à lui que nous envoie le maître de la guilde. Il est censé nous donner des indications sur la façon de suivre la trace de cette espèce de pierre que nous devons retrouver.
Le capitaine feuilleta une fois encore l'épais carnet
que lui avait offert le nain forgeron. Ah, voilà. Il me semblait bien que j'avais vu ça quelque part. Alors il a écrit ici « Le vieux Will Kipédias peut apporter de précieuses réponses à bien des questions. Attention, c'est un caractériel à moitié fou qui ne supporte pas le moindre bruit. Vous allez venir l'interroger avec nous ?»
Malheureusement, à l'autre extrémité du lac, nos routes se séparent. Je sais d'avance que je vous quitterai pas de gaieté de cœur. Mais pour gagner Arkorok, il me faudra piquer plein ouest.
Cette cité vous tient à cœur à ce point-là ? Demanda Éoliel, dont l'émotion faisait trembler la voix.
En restant avec nous, vous pourriez vous battre aussi, et vivre une vie passionnante.
L'elfe leva ses grands yeux implorant vers le capitaine, dont le regard perdu au loin indiquait clairement qu'il rêvait déjà à ces contrées lointaines. Éoliel se colla à lui et le serra dans ses bras de toutes ses forces, les yeux déjà humides de la séparation à venir. Le robuste soldat se demandait comment se sortir de ce moment aussi inattendu qu'embarrassant, lorsque la puanteur, qui précédait désormais Rohor, fit délicieusement froncer le joli petit nez de l'elfe.
Oh, un gros câlin, comme c'est émouvant. La suite au prochain épisode ?
Tout à fait, mon petit bébé.
Ouais, bah faudra trouver moyen de laver ce troll, parce que ça pue jusqu'ici.
Tu l'as dit, Bouffy.